On continue notre petite étude dans Jacques. On est rendu dans Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. On voit un beau sujet ce soir, mais ils sont tous beaux, ils sont tous bons. Mais le sujet qu'on va voir ce soir, c'est le sujet, je pense, qui est le plus espéré parmi les chrétiens. C'est le retour du Seigneur Jésus. Jacques en parle dans son épître, dans ces deux versets-là qu'on va voir ce soir, il nous parle justement du retour. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire en attendant son retour? Parce que, on le sait, ça fait 2000 ans que c'était annoncé que Jésus reviendra, puis ça s'étire un petit peu. Dieu, il use de patience, puis en veut le plus grand nombre possible dans le ciel. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de places de libre encore, puis encore beaucoup de personnes qui doivent rentrer. C'est pour ça qu'il étire le temps. On est encore dans les temps de la grâce. On est à l'an de grâce 2016. Puis là, tant que Jésus n'est pas revenu, on est encore sous la grâce. Le sujet de Jacques, pour nous suggérer, il veut nous donner une vision là-dedans. Qu'est-ce qu'on devra faire dans l'attente de son retour? Mais il dit, affermissons-nous dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Travaillons à s'affermer, à affermer nos cœurs, à rester fermes, parce qu'on a besoin de cette force-là qui vient du Seigneur. Quel est le plus grand événement attendu par les chrétiens, sinon son retour? La Bible en parle. Il y a beaucoup d'événements que la Bible parle qui vont arriver avant son retour, mais c'est pas les événements qu'on espère principalement. Moi, que l'Antéchrist paraisse, qu'il vienne l'Antéchrist, c'est son problème, mais c'est pas ce que j'espère. J'espère pas en lui, j'espère pas qu'il ait la grande tribulation, j'espère pas qu'il y ait des persécutions contre les chrétiens, ça fait partie des choses annoncées. J'attends pas qu'il y ait une apostasie, c'est pas une espérance pour moi. Mon espérance est placée dans le retour de Jésus, puis notre rassemblement avec lui. Il n'y a rien de plus précieux que le jour de son avènement. Dans Jacques, que devrions-nous faire dans l'attente de sa venue? Dans Jacques 5, les versets 7 et 8, Jacques nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur y attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Amen. Gloire à Dieu. Dans ce passage-là, la première chose qu'on remarque, c'est que trois fois le mot « patience ». Patienter. Patience, c'est être dans un état d'attente, mais dans la persévérance dans l'attente. Quand quelqu'un est impatient, il réagit. Soit il décide de tout jeter là, puis il laisse tout tomber, puis il s'en va. Ou il se met à crier, puis il se met à dire des bêtises. Quand il a sa affaire... Mettons, dans les hôpitaux aujourd'hui, ça fait 18 heures que tu attends sur le banc à l'hôpital pour pouvoir passer à ton rendez-vous, qu'il y a l'urgence, parce que s'il y a trop, il n'y a pas assez de médecins, il y a trop de monde qui veulent se faire soigner. Ça fait 18 heures que tu attends. Des fois, on est un petit peu impatient. Il y en a des gens qui réagissent avec impatience. Là, on parle d'un sujet du retour de Jésus. Ça fait 2000 ans qu'on attend. Puis nous, en tant que dans notre vie personnelle, si ça fait 35 ans que t'es chrétien, ça fait 35 ans que t'attends, si ça fait 10 ans, c'est moins pire, console-toi qu'il y en a que ça fait 35 ans qu'ils attendent. Puis il y en a d'autres, ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils sont chrétiens. Ils sont rendus à 80, 90 ans, ça fait 60 ans qu'ils sont chrétiens, puis ils persévèrent, puis ils attendent encore. Puis ils lâchent pas. Ils sont encore debout en train d'attendre le Seigneur. Puis ils sont encore dans leur église en train de prier pour le retour de Jésus. Ils sont encore en train de chanter des chants pour louanger le Seigneur par des chants qui parlent du retour de Jésus. On se lassera pas. Les ceux qui ont le cœur affermi ne se lasseront point. Ils vont persévérer. Puis on a besoin de s'affermer. S'affermer veut dire devenir ferme. Ferme, c'est solide, décidé, inébranlable. On a du courage, puis on continue, puis on lâche pas. On n'est pas des lâcheux, parce que le Seigneur nous donne la force. L'événement très attendu est le plus important à venir. Tout est centralisé sur cet événement-là. Il nous parle des choses précédant son retour, puis des choses qu'il va y avoir par la suite de son retour. Mais le point central, c'est son retour. Jésus revient bientôt. Quand on parle dans Jean 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement », quand on parle du mot « avènement », il est écrit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, c'est le mot « parousia », pour ceux qui aiment le grec. Louis II a traduit ça par « avènement », mais ça veut dire aussi « présence », « arrivée », »,« présent », »,« retour », »,« apparition ». C'est le même mot pour dire que Jésus, autant qu'on le voit pas présentement, il y a un jour où tout le monde va le voir. Ça va être son avènement. Ça va être la parousia. Jésus va être vu à travers la planète. Puis tout œil le verra. Et même ceux qui l'ont crucifié. Parce que les morts aussi vont le voir, Jésus. Puis ils n'auront pas fini d'en entendre parler. Jésus, il n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité, puis il va revenir. Quand on parle de sa venue, on parle de son arrivée, on parle de son retour. Quand il va revenir pour prendre place, sa place, il va reprendre le contrôle de la planète, c'est lui qui va régner, ça ne sera plus le diable. Le diable va être enfermé pendant les 1000 ans. Lui va prendre le contrôle. Puis le temps des nations, quand on parle en parenthèse, le temps des nations va être terminé. Ce ne sera plus les nations qui mènent leur vie. C'est Jésus qui va prendre le contrôle avec tous ses saints. Il va venir réparer tout ce que le monde est en train de démolir. Bon, ça sous-entend aussi le retour futur et visible de Jésus depuis les cieux pour ressusciter les morts, parce que Jésus, à son retour, à son avènement, il revient visible avec tous les morts croyants. Tout le monde va voir l'armée de Jésus. Tous les saints, tous les croyants en Jésus-Christ vont ressusciter, vont être vus à travers la planète. Ça va éclairer le ciel comme un éclair. Ça va être brillant, ça va être lumineux, ça va être glorieux. Puis en même temps, ça va être catastrophique pour ceux qui ne sont pas à lui. Ça dit que les chefs, les grands, les chefs de la... Ils vont se faire des bunkers dans la terre. Ils vont se cacher dans les rochers sous la terre. Cachons-nous, car la colère de l'agneau est arrivée. Et qui peut subsister? Ça va se mettre une panique générale à travers la planète. Puis Jésus, par son éclat de son avènement, puis par le feu qui sort de sa bouche, bien, il va détruire l'Antéchrist, il va détruire les armées qui sont venues assiéger à Jérusalem. Ça va être quelque chose qui s'est jamais vu. Son retour a été annoncé par le Seigneur lui-même. C'est Jésus qui l'a dit qu'il reviendrait. Dans Matthieu 24, les versets 30 et 31, Jésus parle de la destruction de la planète, la destruction de Jérusalem plutôt, puis l'avènement, son avènement, l'avènement du Fils de l'homme. Il est appelé le Fils de l'homme, parce que Jésus, c'est Dieu, mais il était Fils de l'homme quand même, c'était Jésus. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. C'est pas un retour invisible. L'enlèvement, c'est pas un retour invisible. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ça, c'est ce que je vous disais, ça va être la catastrophe dans le cœur de tout le monde, là. Ils vont être en panique. Toutes les tribus de la terre vont se lamenter. Tout le monde va être en pleurs et en larmes de réaliser que c'était vrai que Jésus reviendrait. Ils n'ont entendu parler, ils ont tout rejeté, ils ont tout ri des chrétiens, puis ils ont même ri, et même plus que ça, frappé des chrétiens, blessé des chrétiens, tué des chrétiens, parce que les chrétiens essayaient de les amener à croire, puis là, ils l'ont rejeté, puis là, Jésus revient pour prendre le contrôle. Il dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront, puis elles verront de leurs yeux, c'est pas un retour invisible, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, puis il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde va voir Jésus dans le ciel, puis Jésus va envoyer ses anges rassembler ses élus. Wow! Ça va être grandiose. Tous les ceux qui sont là, les chrétiens, dans les prisons, parce que dans cette période-là, il y a plein de chrétiens qui vont être dans les prisons. Il y a ceux d'un cimetière, ils vont tous ressusciter, ils vont être avec Jésus. Puis ceux qui sont dans les prisons ou qui sont cachés dans des grottes ou dans le bois parce qu'ils se font persécuter ou qui se font ridiculiser, puis ils se font toutes les tortures que vous pouvez imaginer, mais ils vont être rassemblés. Jésus a envoyé ses anges aller chercher ses brebis. Puis là où ce que tu es, il va aller te chercher, inquiète-toi pas, il t'oubliera pas. Il les connaît, ses brebis. Il les appelle par leur nom et elles le suivent. Puis si t'es sa brebis, attends-toi à ce qu'un jour tu disparaisses en un clin d'œil, puis ne sois pas surpris de te retrouver faire du surf sur un nuage. Youhou! Ça va être extraordinaire. Son retour, il a aussi été annoncé par des anges. On voit ça dans Acte 1, le verset 9 et à 11. C'est suite à la résurrection de Jésus. Jésus est apparu, après sa résurrection, il est apparu pendant 40 jours à ses disciples. Puis il leur expliquait les choses du royaume de Dieu. Puis pendant 40 jours, mais à la fin du 40 jours, là, il nous a dit, là, avant de partir, là, je vous dis, là, vous allez recevoir une puissance et le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous allez être mes témoins. Restez à Jérusalem. Mais là, ça nous dit, hein, il a commencé à monter dans le ciel. Puis là, c'est ce qu'on voit dans Acte 1, le verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Là, il a disparu d'un nuage. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jésus va revenir du nuage. Puis il va venir prendre le contrôle. C'est un moment-là, ça va être glorieux. Ça fait partie de l'espérance des chrétiens d'attendre que Jésus revienne prendre le contrôle. Comme qu'il y en a qui pensent dans leur doctrine que Jésus sera déjà revenu, puis que on est dans le règne de 1000 ans, ça c'est une fausseté. Jésus n'est jamais revenu, personne voit Jésus. Quand Jésus va revenir, tout œil le verra, comme dit au début du premier chapitre de l'Apocalypse. Tout œil va voir Jésus de leurs yeux. C'est pas une affaire qui va se faire à l'invisible, comme on parle d'autres doctrines qui disent qu'il est venu en 75, puis après ça, il reviendra plus tard. Puis en fin de compte, les prophéties s'accomplissent pas. On voit jamais Jésus revenir. Puis il y en a qui pensent qu'il est déjà revenu. Il est pas revenu. S'il serait revenu, il serait en train de régner présentement. Il n'y a pas un être éternel encore sur cette terre. Mais que Jésus revienne, ça ne sera pas un pour la longueur d'une vie. Ça va être pour le règne de 1000 ans. Puis ça va être son règne à lui.
Ça va se battre à
Armageddon. Oui, il va y avoir une hyper bataille à son retour, mais c'est le Seigneur qui va lui. On va être là, on va le suivre, le Seigneur. Ça dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, ça dit que Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur une nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Fait que quand on rencontre le Seigneur dans les airs, c'est pour être toujours avec le Seigneur. S'il s'en va vers l'Antéchrist faire la guerre, on va être avec lui. On va voir le Seigneur anéantir cette immense armée de 200 millions d'hommes qui va savoir avancer dans ce pays-là pour faire la guerre au peuple d'Israël. Ça va être laid, puis beau. Laid pour ceux qui sont sur la terre, puis beau pour ceux qui vont prendre le contrôle avec le Seigneur. Puis c'est pas parce qu'on veut que Dieu détruise ses ennemis, mais il l'a dit qu'il le ferait. C'est lui qui l'a décidé. C'est annoncé. On peut pas passer à côté de ces décrets-là. C'est pas nous qui a voté pour qu'on ça puisse se faire. Jésus a déjà planifié, c'est déjà prophétisé qu'il va revenir puis il va détruire l'Antéchrist, puis il va détruire aussi les nations qui s'avancent. Oui. Ce moment va être un moment décisif pour tous les humains de la surface de la terre. Pourquoi décisif? Parce que ce moment-là, à son retour, là on va aller voir un passage dans 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10. Jésus, quand il revient pour deux choses en même temps. Un, il vient pour consoler ceux qui l'attendent. Parce que ça nous parle de souffrance, ça nous parle de combat, de lutte. Il y en a beaucoup qui vont mourir dans cette période-là, comme qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire qui sont morts. Mais il y en a encore beaucoup à son retour qui vont mourir. Fait que Jésus revient pour consoler ses brebis. On a parlé un peu avant réunion comment est-ce que le Seigneur, c'est un berger qui veut prendre soin de ses brebis. Mais chaque fois que quelqu'un touche à une de ses brebis, et Jésus dit, c'est comme tu me touches à la prunelle de mon œil. Ça l'affecte, Jésus. Jésus, il n'est pas content de voir les méchantes personnes frapper ses envoyés. Il y a plein de passages, pour avoir fait une grosse étude là-dessus, avec tous les passages qui parlent de comment est-ce que Jésus n'est pas content de voir qu'il envoie ses serviteurs, puis le monde met à mort ses serviteurs, puis les outrage, puis les humilie, puis les blesse, puis tout le kit, puis il va revenir, puis il va faire périr ses méchants. À cause qu'ils sont, ils ont été injustes envers Jésus en tuant le seul juste, puis en plus, à cause de toute la persécution massive contre les seuls justes déclarés par Dieu, c'est les saints, ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus. Voyez-vous? Puis c'est pas à nous à se venger, Jésus le dit lui-même qui va s'occuper de cela. Jésus dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais à ce moment-là, Jésus va revenir du ciel, c'est premièrement pour consoler toutes les brebis qui sont en train de souffrir. Parce que ça va être une période difficile sur la terre. On voit ça dans 2 Thessaloniciens 1, 6. Et il nous parle aussi dans ce verset-là qu'il va revenir pour consoler ceux qui l'attendent, puis il va revenir aussi pour punir ceux qui connaissent pas Dieu, puis ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus. Alors regardez bien ce passage-là. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Ça ne nous dit pas qu'ils ont une deuxième chance, ça ne nous dit pas qu'à son retour, d'autres vont pouvoir être sauvés. Ça nous dit qu'à son retour, il vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, puis ils vont avoir pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Voyez-vous, dans ces versets-là, c'est clair, net et précis. Son retour, il vient pour nous consoler à nous qui sommes affligés, puis vient en même temps pour punir ceux qui connaissent pas Dieu, puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Puis ils vont avoir un châtiment éternel, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra ce jour-là pour être glorifié dans ses saints. Parce que ses saints l'attendent, ses saints le prient, ses saints l'acclament, le louent, puis on l'attend, puis on a hâte qu'il arrive, puis on a hâte qu'il revienne, puis il est à la veille de revenir, puis là, ça nous dit, ça s'en vient, ça peut aller mal sur la terre, gardons une fermeté de ça s'en vient, puis mais qu'il vienne, c'est pour nous consoler, puis en même temps, pour punir d'un châtiment éternel ceux qui ne se sont pas convertis, ceux qui ont choisi de rester rebelles contre Dieu. Ce verset-là ne donne pas de deuxième chance, comme s'il y avait un autre moyen d'être sauvé après son enlèvement. Voyez-vous? Ça n'existe pas dans la Bible. Quand que Jésus revient, la porte de la grâce va être fermée. Allez lire dans Luc au chapitre, je vous demande pas à soir, mais vous irez lire Luc au chapitre 13. Il parle d'accepter Jésus. Il dit, lorsque le maître de la maison se sera levé puis aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper en disant, ouvre-nous, il va dire, je vous connais pas. C'est la même chose avec Matthieu 25 quand il parle des vierges folles et des vierges sages. Les sages ont rentré et la porte fut fermée. Les autres sont venus pour cogner, n'ont pas pu rentrer. Il n'y aura plus personne qui va pouvoir entrer après que la porte va être fermée. C'est un châtiment éternel qui attend ceux qui rejettent. C'est pour ça que c'est un jour important à ne pas manquer d'être prête. Jacques nous exhorte au chapitre 7, en commençant son étude, dans le verset, il dit, soyez donc patients. Patient veut dire capable d'attendre, capable d'attendre, de persévérer. Soyez donc patients, c'est persévérez donc. Soyez patients, c'est soyez capable d'attendre. Ça s'étire un petit peu, mais le Seigneur veut ramasser toutes ses brebis. Mais il va revenir, c'est sûr qu'il va revenir. Il le dit, les anges l'ont dit, il y a plusieurs passages qui nous le montrent. Jésus va revenir. Puis même que ça arrive, ça va être toute une joie pour ceux qui sont encore là pour le servir. Ça va être extraordinaire, qu'on ne sera pas déçus. Les moqueurs disent que cela n'arrivera pas. Dans 2 Pierre 3, les versets 3 et 4 nous disent, sachant qu'avant tout, que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise, puis ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. C'est toujours pareil. Mais c'est faux, ça n'a pas duré toujours pareil. Dieu a déjà tout détruit la terre par le déluge. Puis il n'y a rien qui dure. Les choses vont changer. C'est annoncé au temps de Noé. Noé il annonçait qu'il y aurait un déluge, une destruction est arrivée. Nous annonçons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça va arriver, puis ils n'auront pas le choix de le vivre. Parce que c'est pas les gens qui mènent, c'est Dieu qui mène sa vie. Puis il y a des moqueurs d'un dernier temps. Nous sommes dans les derniers temps. Il va y avoir des gens qui vont dire, « Quelle est sa promesse? Ça fait longtemps que ça traîne, ça fait 2000 ans qu'il en parle, puis il n'est pas revenu encore. » Ça, c'est ceux qui essayent de décourager les autres pour que les gens lâchent. « Ah oui, c'est vrai, il ne revient pas, puis il n'est jamais revenu, puis là, je suis tanné d'attendre. » Mais là, l'impatience va faire qu'il abandonne. Mais nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. On va aller lire Hébreux 10, les versets 35 à 36. Ne nous laissons pas décourager. Prenons courage. Il reviendra. Dans Hébreux 10, le verset 35 et 36, ça nous dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance. Êtes-vous assurés que Jésus revient? »
Oui!
Amen! Bon, mais abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'espérance que vous avez du retour de Jésus, bien, il y a une grande récompense qui s'en vient. C'est pas une récompense. Quand ta mère, quand tu étais jeune, elle te disait, « M'a donné une récompense », elle te donnait 25 cents. Bon, ça peut-être beaucoup pour nous quand on était jeune, mais c'est pas beaucoup. Quand la Bible parle de grande récompense, c'est pas 25 cents, là. On parle la félicité éternelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit au verset 36, on va jusqu'au verset 39 en fin de compte, de 35 à 39. Car vous avez besoin de persévérance. Quand il nous disait, genre, soyez patient. Et dans ce verset-là, il dit, vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. C'est qui doit venir? C'est Jésus. Il ne tardera pas, parce que son heure est fixée par le Père, c'est lui qui décide. Et mon juste vivra par la foi. Mais, il y a toujours des conditions, il y a toujours des clauses. Mais, s'il se retire, le juste qui se retire, mais s'il se retire, Dieu dit, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Nous avons besoin de persévérer pour obtenir les récompenses. Encore un peu de temps, Jésus va revenir. On est-tu encore capable d'attendre? S'il y en a qui se disent, « Ah, ben moi, je commence à être fatigué d'attendre. » Demandez à Dieu qu'il vous remplisse votre cœur de cette fermeté. On a besoin d'affermer notre cœur pour être capable de rester ferme dans la foi jusqu'à la fin. On étudie le sujet de la foi le dimanche, mais c'est un autre beau passage pour la foi. Il dit, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mais Dieu prendra pas de plaisir en cette personne. » Puis nous, en parlant de l'apôtre Paul, l'auteur des Épîtres aux Hébreux, dit, nous, là, les chrétiens affermis, on n'est pas de ceux qui se retirent. Ils l'ont prouvé, ils ont donné leur vie pour suivre le Seigneur. On n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Puis là, Jacques continue au verset 7. Comme pour le laboureur, il y a plusieurs étapes avant la récolte. Hein? Au printemps, le laboureur voudra déjà que son grenier soit plein de tout ce qu'il a ramassé. Mais avant qu'il ramasse, il sait qu'il faut qu'il aille dans son champ arser, labourer, semer, désherber, étendre l'engrais. Il arrose toutes sortes d'affaires. Puis il faut qu'il attende la pluie de la première saison, puis les pluies des dernières saisons qui sont importantes pour le sol, pour que ça pousse comme il faut. Puis il y a du travail à faire, le laboureur. Puis après ça, finalement, au bout de tous ses efforts, la récolte. Mais il faut qu'il aille aussi récolter, c'est encore du travail. Puis finalement, le produit il reste dans le grenier. C'est ce que Jacques nous dit. Voici le laboureur, il attend le précieux fruit de la terre. Puis quand il a fait tout son ouvrage, il attend, puis il regarde ça pousser. Puis il espère que ça puisse venir à maturité, puis que ses fruits vont être là dans ses épis. Il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Il est patient, il persévère. Il se tanne pas à moitié chemin, puis il dit, là, ça fait, là, je suis tanné, puis il met le feu dans son champ. Non. T'attends, ça pousse, puis un jour tu récoltes. Mais c'est pour ça qu'il essaie de nous dire, Puis là, il nous dit, il est patient à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Puis là, finalement, il ramasse tout. Mais il nous donne ça, cet exemple-là, Jacques, dans ce passage-là. Au début, il nous demande d'être patient. Puis là, il nous dit qu'il faut être patient comme un cultivateur. Puis attendre que les étapes se fassent. Quelles sont ces étapes qui doivent se faire avant le retour de Jésus? Bien, il y en a plusieurs. C'est tout annoncé comme, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que la fin est proche. Tant qu'on n'a pas encore tout vu les signes précurseurs, on le sait qu'on attend encore avec patience.
Je sais qu'il nomme plusieurs fois dans le Nouveau Testament là, que le soleil va s'obscurcir, puis la lune aussi.
C'est
va,
ça. Ça, c'est ça, un des signes. C'est un des signes, mais il y en a plusieurs signes, puis on ne les a pas tous vus encore arriver.
Non.
C'est pour ça qu'on prenons patience. Il y a encore du temps à attendre. Puis qu'est-ce qu'on doit faire d'ici à ce temps-là? Mais Jacques nous le dit dans le prochain verset. Jacques nous encourage à la patience. Cela risque d'être long, d'attendre. Il y en a qui sont 35 ans, comme je vous disais, qui attendent, puis attendent encore. Puis il y en a qui ont attendu toute leur vie, puis ils l'ont pas vu parce qu'ils sont morts avant qu'ils reviennent. Mais ils ont attendu, ils ont été patients, puis ils ont persévéré dans leur attente, puis continuent à faire la prière que Jésus a donnée dans la prière du Notre Père. Ça dit que ton règne vienne. Mais quand on dit que ton règne vienne, c'est qu'on a hâte que Jésus revienne pour prendre son règne. Fait que c'est depuis 2000 ans qu'on prie le retour de Jésus. Voyez-vous? En attendant, travaillons à affermir notre cœur. Jacques 5,8 nous dit, vous aussi, soyez patients. Le cultivateur est patient. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Excusez. Car l'avènement du Seigneur est proche. Affermissez. C'est notre devoir. Rendre notre cœur ferme. Qu'on soit ferme, inébranlable. Qu'on l'attend, qu'on ne se laisse pas aller dans le découragement, parce que ni à cause des persécutions des moqueurs, ni à cause des catastrophes et des persécutions, parce qu'il va y avoir des gros problèmes avant son retour, des tribulations, etc. Prenons patience, attendons, affermissons notre cœur, puis le meilleur moyen de s'affermir, étudier la parole, aller dans votre église, entendre les messages de la parole de Dieu. Allez louer le Seigneur, prier le Seigneur, ça nous fortifie. Restez en contact avec le Seigneur. Laissez pas le monde, le diable ou votre chair vous amener loin du Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes encore ce soir dans ces deux beaux versets de Jacques pour nous rappeler que tu reviens bientôt. Puis on veut garder cela frais dans notre mémoire. On veut continuer à marcher dans la fermeté, à rester ferme dans la foi, à pas se laisser dérouter. Puis ceux qui faiblissent, Seigneur, fortifie-les, remplis-les de ton Saint-Esprit, rends-les fermes, donne à chacun de devenir fort dans le Seigneur, puis qu'on garde la foi, puis qu'on demeure dans la persévérance, dans la patience, jusqu'à ce que tu reviennes. Puis merci de ce que tu vas faire dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.